Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est votre nouveau rendez-vous du soir. 22h de direct. 22h de direct. C'était magnifique.
Oh là là.
2h de direct tous ensemble au studio 621 en plein cœur de la maison de la radio. Et en cette journée de rentrée des classes, eh bien, on a décidé de respirer un air de vacances. Le dernier avec nos invités. Monica Sabolo qui signe Summer, roman magnifique d'une disparition en eau trouble. Secret de famille, névrose suisse et métaphore toxique au programme de votre littérature qui multiplie les images pour créer un suspense poétique. Monica Sabolo, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis à vos côtés ou derrière nous, les héros de la French Touch qui lorgnent du côté de la disco italienne Tiamo. C'est le titre de leur album Phoenix et de retour Vali. Et c'est votre instant V.
Oui, on est ravis parce qu'il y a trois instants V, ça veut dire trois titres en live et puis ils vont nous joindre autour de la table. On est ravis.
23h le journal, on s'en va, 23h15, on revient, le Énervé la suite fait sa rentrée des classes en fanfare, hein, puisque c'est le vœu du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Christophe Bourseiller.
Oui, alors donc soyez sérieux Laurent, c'est la rentrée maintenant, ça suffit, on arrête de déconner. Et alors Laurent, vous me ferez ça en ligne. Enfin bref, donc les invités de la deuxième partie.
On va multiplier toutes les métaphores pendant
le deuxième. Je vais essayer de faire toutes maintenant, comme ça sera fait après. Donc on a Monsieur Ravé. Ensuite, Madame Dignocourt et également Madame Mazet, parce qu'on donne évidemment les noms, puisqu'on est
trois.
Sophie Mazet, Bernard Ravet, Isabelle Dignocourt.
Deux profs et un principal.
Voilà, ce sont des fantassins de l'éducation nationale. Chacun d'eux a fait un livre et on va les confronter avec des points de vue très différents.
Le NRV, 22h minuit, eh bien c'est reparti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Alors, ça ne repart pas en fanfare, comme le veut notre ministre de l'Éducation, mais en musique, tout simplement.
Exactement, Vali. Le studio 621 a l'air d'être dressé pour un dîner. Il y a une grande table avec une nappe en léopard, mais au lieu des vaisselles, il y a des microdines, des podiums de cérémonie, les Césars, un clavier, deux enceintes, deux guitares, une verte, l'autre rose bonbon.
Un téléphone
et un
rouge.
Téléphone en bakélite rouge. Tout autour, les quatre membres du groupe Phoenix, c'est un plan de travail convivial et c'est là où ils vont jouer trois morceaux ce soir. Le premier est aussi le titre de leur sixième album Ti Amo. Phoenix dans le nouveau rendez-vous sur France Inter et avec un peu de chance aussi sur Facebook Live. Messieurs, c'est à vous.
I'm not afraid to die.
France Inter, on est absolument ravis. Tiamo, c'est le single, le premier single maintenant depuis Belle Lurette de cet album du même nom. Alors je crois que c'est Thomas et Laurent qui vont venir à table. C'était Dick Darcy au clavier, Laurent Brankowitz à la guitare, Christian Mazzale à la guitare et puis Thomas Mars bien sûr au chant. Alors je voulais demander, Laurent, cette guitare rose, elle est minuscule, qu'est-ce que c'est cette guitare?
Alors c'est une guitare pour enfants, ça.
Bah justement, c'est
plus pratique à jouer,
plus petit, plus pratique à transporter surtout.
Qu'est-ce que vous recherchiez avec ce...
Le poids, une...
non,
un
c'est
gain
ça.
De poids. Si, si.
C'est juste...
Mais on a joué sur des instruments merveilleux et finalement, les instruments minables, c'est presque aussi agréable.
En même temps, c'est un Squier, qui est c'est une marque de Fender où beaucoup d'enfants démarrent leur carrière avec ça. Ou en tout cas, ma fille en avait une, je me souviens très bien, mais je n'avais jamais vu aussi petite et aussi rose.
Alors c'est quoi cette table? Pourquoi vous êtes installé à une table?
Pourquoi
pour avec la une nappe, nappe en léopard.
Alors l'idée on l'a piqué. On l'a piqué à Lucio Dalla.
Non, Vinicius de Moraes.
Vinicius de Moraes.
Le poète et diplomate brésilien.
Brésilien, ouais.
Qui sur scène avait une petite nappe comme ça, la même, et son petit verre de whisky, tout ça. Ça nous a beaucoup plu. On s'est dit ça, c'est quelqu'un qui sait vivre.
Et il faisait ça sur scène et
sur scène, ouais, entre deux chansons. Bon, c'était un bon vivant, on peut dire, avec un foie en très mauvais état. Donc toute la soirée, il buvait des petits coups sur ça.
Et vous faites ça aussi sur scène?
J'allais dire, ça manque un peu les verres de whisky, là.
Ouais, mais c'est parce qu'on est en...
Sérieux.
Service public. Vous avez de l'eau pour vous et des sodas. C'est la seule chose, une sorte de goûter d'anniversaire pour enfants.
Et les madeleines.
Monica Sabolo, j'imagine que vous connaissiez Phoenix.
Ouais, j'adore.
Vous écoutez ce genre de musique?
Ouais, j'adore ce titre. Et je trouve que c'est une musique qui est extrêmement visuelle, en fait, très cinématographique. Je l'avais découvert presque au début, mais c'est vrai que les titres sur Lost in Translation ou sur Somewhere de Sofia Coppola, il y avait une magie dans le mélange des deux qui me plaît énormément. Et là, je voyais tout de suite des trucs. D'ailleurs, je le voyais bien sur l'adaptation de mon précédent roman, En Montana, qui est avec les jeunes filles italiennes dans les années 60.
Bah, ils ont signé la dernière Sofia Coppola. Vous avez écrit le bande originale.
Les proies, Nicole Kidman. Ouais. Vous y écrivez en musique?
Ah, pas du tout. Impossible. Non, dans le silence.
Le plus total.
Ouais.
Christophe, vous aviez une question?
Oui, une question toute bête, parce que vous n'avez pas terminé la description du visuel. Il y a également un téléphone rouge sur la table. Pourquoi le téléphone rouge?
Ça, c'est un objet de... On va le tester. En fait, c'est par hasard qu'il est là, parce qu'on veut s'en servir et mettre un vrai micro dedans. Donc, on l'a juste amené pour le montrer à notre technicien, voir si on peut mettre un micro dedans.
Je croyais qu'il allait sonner.
Non, mais...
Et que quelqu'un allait vous appeler en
mais
direct.
C'est une bonne idée.
Il va peut-être sonner un jour sur scène, c'est notre but. Enfin, c'est ce qu'on cherche à faire.
Vous faites plein de gags. Hein. J'ai vu vous faisiez des blagues pendant le.
C'est pas une blague. C'était pas une blague. C'est-à-dire que Laurent, pendant que Deck jouait le clavier, il faisait des petites percussions surprises.
Quand même un peu une blague. Ça avait l'air d'une blague. De même quand vous avez rectifié son micro.
Ouais, on cherche la spontanéité. Enfin, on cherche à déclencher aussi
le fou quelque chose.
Voilà.
Et il y a eu des fou rires pendant les concerts. C'est arrivé?
Ça arrive, ouais, ça peut arriver. C'est pas le meilleur endroit pour un fou rire, franchement.
Vous pensez à quoi, par exemple? Il y a eu un concert qui s'est...
Je sais pas, non, mais j'ai déjà surpris des fou rires entre surtout les deux là qui sont au
qui
fond,
sont derrière,
qui restent derrière, mais il y a un micro quand même où ils peuvent intervenir.
Deck est très très comique sur scène. Fait des blagues en permanence pour nous. Et parfois, c'est trop.
Il est allé à chef ou pas?
Ah.
Mais il n'a pas besoin de parler. Hein. Il est bien, il est au loin. Là.
Derrière sa nappe. Si, ben voilà, il y a un micro qui arrive.
Gilles qui est arrivé. Est-ce qu'il va se défendre? Est-ce qu'il va dire c'est vrai?
Allez, micro. Non,
j'apprécie ce que vous dites.
Alors, Phoenix, un mot peut-être sur la photo à l'intérieur du CD, parce que on parlait de dimension visuelle. On vous voit, vous, hein, toute la bande, Marcello Mastroianni et Anita Ekberg dans La Fontaine de Trevi, ambiance Dolce Vita. Qui a eu l'idée de ce montage et qu'est-ce qu'il veut dire pour vous?
C'est Laurent. Je crois que c'est moi, ouais. Hein, bah, l'idée, c'est de... En fait, cet album, il parle d'Italie, mais surtout d'un rêve d'Italie. Donc, au fond, ce qu'on voulait, c'est se projeter dans... dans quelque chose qui n'existe plus, qui a sans doute jamais existé, et qui est une sorte de fantasme total.
T'as dit des années 60?
Ouais, peut-être, 50, 60. 60, 70. Et puis, nous, on connaît, enfin, je connais bien l'Italie, l'Italie réelle.
Avec notre frère, vous êtes...
On a un père ouais. italien. Mais là, ce qui nous intéressait, c'était l'Italie du fantasme. Donc là, voilà, on s'est mis, avec les plus grands, on a osé. C'est un peu un crime de lèse-majesté, quand même.
L'Italie, de votre côté, Monica Sabolo, c'est... Quelle Italie ?
Moi, c'est aussi une Italie fantasmée, je crois. Je suis italienne, mais j'y ai vécu seulement 3 ans quand j'étais toute petite, et je pense que j'adore une Italie qui n'existe pas.
Et une Italie un peu spéciale, je disais que vous aimiez, d'ailleurs comme moi, Dario Argento, cette Italie-là.
Ah, parce
les
que
films de Dario Argento.
Je le cite effectivement dans Cro-Montana. Ouais, c'est un cinéma que j'aime bien, ouais.
Fanny.
Oui.
Je croyais que vous aviez une question.
Très belle réplique.
En fait, vous parliez de la Dolce Vita, on parlait de la Dolce Vita, et je sais qu'il y a une séquence particulière que vous mentionnez dans lemonde.fr, puisque vous avez une sorte de YouTube tech, et vous mentionnez une séquence spéciale de ce film-là. C'est laquelle, en fait, de Fellini?
Alors, c'est la séquence où Marcello est sur la plage et il rencontre une jeune fille. Là, il est dans un petit cabanon de plage, fabuleux, avec un jukebox. Une pergola, c'est génial. Je suis allé voir.
Ah, vous êtes allé sur les lieux?
C'est moins bien. C'est la
magie du cinéma.
Le temps qui passe, voilà. Et puis la magie du cinéma, l'urbanisation. Mais ouais, c'est ce moment où on sent il est nerveux, il est cynique. Et soudain, il voit arriver une petite serveuse qui débarque de sa province italienne. Et là, on sent qu'il perçoit une sorte de la possibilité du salut. Dans la pureté du visage de cette petite jeune qui met une pièce dans le jukebox et met un petit morceau un peu minable.
Alors on va rester sur la musique parce que dans lemonde.fr, justement dans cette YouTube tech, vous citez pêle-mêle Patti Bravo, Pensiero Stupendo, Chris and Cozy, on écoute. Mais nous, avec Valérie, on s'attendait à autre chose.
Mais oui, parce que vous parlez même, on entend un peu le son de certaines synthés, parce que l'album, il y a beaucoup de synthés maintenant. Mais j'ai lu dans les titres, dans les paroles de Ti Amo, vous parlez aussi de Franco Battiato.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Alors ça s'appelle, excusez-moi, mon français, mon italien, c'est pas mieux que mon français, Voglio danzare.
Voglio.
Voilà, je m'appelle Vali.
Mais peut-être que vous allez pouvoir le dire, Laurent.
Voglio vederti danzare.
Voilà, exactement. Alors ça fait partie aussi avec, je crois, Lucio Battisti, les musiques que vous avez écoutées peut-être bien avant l'album, parce que j'imagine qu'on n'écoute pas beaucoup de musique pendant qu'on fait un album. En tout cas, la plupart des groupes nous disent ça.
C'est vrai qu'en studio, on n'écoute que notre musique. Ce qui est lassant et ce qui fait faire des cauchemars, mais on n'a pas le choix et c'est en tournée qu'on s'inspire pour les prochains disques. Et Battiato, c'est sa folie qui nous plaît. C'est rare. Les codes en général en musique, c'est toujours les mêmes. Les gens s'inspirent. C'est en général dominé par les anglo-saxons et ils font appel. Le champ lexical, c'est souvent le même. Battiato, lui, il parle de la gravité, il a une folie où il s'approprie des notions qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et ça, c'est cette liberté-là qu'on prend chez lui.
Et je pense que vous avez même une touche sur votre clavier qui est nommée pour Battiato. Je ne sais pas si c'est vrai.
Alors ça, j'ai l'impression qu'il y a un mélange d'anecdotes là.
Ça s'appelle Majeur 4.
C'est l'accord. On a l'accord Battisti. C'est Lucio Battisti qui est donc un autre titan de la musique italienne et qui a
C'est Lucio.
Il a toujours un un petit technique de composition qui revient, c'est un certain accord qu'on a identifié il y a longtemps et qu'on utilise et qu'on appelle l'accord Battisti
cette fois-ci.
On va revenir sur la musique italienne électronique dans quelques instants, mais tout de suite, un peu de mystère avant de parler de l'énigmatique Summer, votre roman Monica Sabolo. Mystère, titre de l'album de La Femme qui sera jeudi à Sénon au Climax Festival.
Je veux te voir, je veux t'avoir. New York dans le nightclub, tu t'es rapproché de moi. Je ne vais pas oublier le contact de ta peau, ton sourire et ton rire. C'est comme si on se connaissait déjà quand on s'est mis à danser. Tu m'as donné un baiser, tes cristal à déposer là sur la langue. Fais sauter son top en jean, je crève en voyant sa patrie. Maintenant mon cœur bat au rythme des pas de Tatiana. Blouson de cuir, l'homme à la bouche, s'il fait chaud ce nightclub. Elle se sentait si bien qu'elle me laissa toucher ses seins. Je les prends dans mes mains pour être sûr que je ne rêve pas. Ils sont pas gros mais tellement beaux, c'est les seins de Tatiana. Je me retiens, je respecte Tatiana. Besoin de cuir dans les rues noires, je vais les poils night club. Je suis seul et je pleure de joie car j'entends cette chanson qui te donnera un choc dans ces bouffons de l'un enfant. Je où tu seras dans les noirs, c'est la seule qui te donne.
Deux heures 22, vous êtes sur France Inter, vous écoutez le NRI.
Un new rendez-vous? Non. The new rendez-vous.
Monica Sabolo, cinquième livre pour cette rentrée littéraire, c'est Summer chez Jean-Claude Lattès, sélection Prix Landerneau des lecteurs. Et j'avoue que j'ai été cet été le lecteur fou de ce roman, que j'ai fait aussi toutes les librairies pour en trouver d'autres. Grand Montana, magnifique aussi, avec des points communs entre les deux, la Suisse, la grande bourgeoisie, les secrets de famille. Et puis surtout, une écriture qui multiplie les images, les métaphores, jusqu'à ralentir le rythme et donc créer du suspense. On va y revenir. Alors Summer, c'est l'histoire d'une disparition, il y a 24 ans et 13 jours quand commence le roman, celle de Summer. 19 ans, Summer c'est son prénom, 19 ans, beauté au sourire franc, ses cheveux incroyablement blonds, le genre de fille dont tous les garçons sont amoureux, c'est ce que raconte son frère Benjamin qui ajoute « Moi, sur les photos, je suis toujours sur le côté, légèrement à l'écran, avec mon air de psychopathe. » Et plus loin, ce frère revient sur cette sœur adorée, disparue un jour de juillet au cours d'un pique-nique au bord d'un lac, avec une tonalité mélodramatique. Ça donne « Ma sœur ressemblait pour de vrai à une reine de beauté de feuilleton américain, ses filles saines, aux jambes élastiques, avec des dents blanches irréelles et dans leurs yeux, une lueur insaisissable évoquant le chagrin ou le mal. Ces filles qui ont des rêves trop grands pour elles, ou qui font naître une douleur, quelque chose qui ressemble à du ressentiment dans le cœur des garçons, et qui finissent dans le coffre d'un 4x4 au fin fond d'une forêt. » Donc, le roman, c'est l'histoire de ce Benjamin, hanté par le spectre de sa sœur, un frère drogué, mal dans sa peau, qui raconte ses rêves et ses hantises au docteur Traube. C'est aussi le roman d'une famille perdue dans ses secrets. Et puis, c'est aussi un roman suisse, et c'est pas la première fois, puisque Grand Montana se passait aussi en Suisse. C'est quoi cette idée fixe? Quel lien vous avez, vous, avec ce pays, Monica Sabolo, pour qu'il soit comme ça, le terrain de jeux nocturnes?
J'ai grandi, j'ai fait toute ma scolarité, petite fille et adolescente à Genève. Et on allait à la montagne à Grand Montana. Et je pense que c'est lié à des émotions sombres et gothiques de l'adolescence qui ne voyaient pas dans ce lac un lieu balnéaire et scintillant, mais plutôt un espace très inquiétant, renfermant des secrets, les secrets d'une ville qui pouvait sembler peut-être un peu trop lisse avec ce côté tellement sain et paisible et sympathique de la Suisse et avec son autre facette, plus secrète.
Qu'est-ce qui vous fait démarrer un roman? Est-ce que c'est une image précise? Est-ce qu'il y en a plein de textes? Comment vous débutez un roman? Sur une photographie? Sur quoi?
L'image est très importante et effectivement, ça peut être une photo. Et là, j'avais vraiment envie de parler du lac et de l'univers aquatique, d'être en plongée. Donc, moi, il y a toujours des jeunes filles avec des cheveux qui bougent dans la lumière. Enfin, c'est une
très Vision Suicide. Très Vision Suicide, oui.
C'est un peu une sorte de fixette. Donc, là, il y avait donc une jeune fille avec des cheveux blonds qui bougent sur les bords du lac Léman et qui disparaît, qui s'évapore.
Un roman de la disparition, donc c'est ce qu'on retrouve aussi dans Crans-Montana. Mais au-delà de la disparition dans vos romans, c'est quelque chose qui vous est propre. Premier roman en 2000, le deuxième en 2005, et puis plus rien pendant 8 ans avant de revenir avec « Tout cela n'a rien à voir avec moi ». 8 ans sans écrire de roman, qu'est-ce qui s'est passé?
J'arrivais plus, c'était, je pense que je regardais la littérature avec trop de... Elle m'écrasait et j'arrivais pas à écrire. Enfin, c'était devenu trop compliqué. Et pour Tout cela n'a rien à voir avec moi, j'avais décidé de ne pas écrire et de ne faire que des photos légendées. Et je me souviens que j'étais allée voir mon éditrice et je lui avais dit « je vais faire des photos avec des légendes ». Elle m'a regardée, elle m'a dit « ouais, super ». Mais puis elle savait qu'elle pensait que j'allais me mettre à écrire et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a effectivement des photos, mais le texte s'est revenu comme ça. Mais ça m'a beaucoup aidé d'avoir le support des images pour pouvoir délier la langue.
Vous avez eu peur vraiment de ne plus pouvoir écrire pendant ces 8 ans?
Ah oui, j'en étais sûre même.
Vous étiez journaliste à l'époque?
Ouais, ouais, ouais.
Pour qui? Parce qu'il y a eu Terre et Océan.
Il
y a
Mer et Océan. Mer et Océan.
Mer et Océan. Il y a eu Voici, il y a eu Le L, il y a eu Grazia.
Exactement, ouais, ouais.
C'était donc un problème, cette écriture journalistique d'un côté et...
En fait, ça a toujours été deux mondes complètement imperméables, étrangement. L'écriture journalistique et l'écriture de roman, donc pour ces deux choses qui n'ont rien à voir, étrangement. Elles ne se rencontrent pas. Donc je pouvais encore écrire des articles, ça c'était possible, mais c'était tout.
Ah, Voici, qu'est-ce que vous faisiez?
Alors je m'occupais du rewriting et des légendes aussi.
Des légendes,
c'est ça qui est la meilleure chose, je crois, dans Voici.
C'est tout? Pas d'autre chose? Vous n'étiez pas journaliste, c'est-à-dire vous n'étiez pas sur le terrain?
Non, pas du tout. Non, je faisais vraiment que ça.
Cette peur de ne plus pouvoir composer, c'est quelque chose que vous avez traversé aussi pour Phoenix? Vous êtes quatre en même temps. Donc
peut-être le deuxième album.
Ah ouais, c'est toujours.
Mais depuis, on a une stratégie qui consiste à composer tous ensemble. Donc la responsabilité est diluée. Et puis ça prend beaucoup de temps, mais c'est très agréable. On a perdu l'angoisse, la terreur.
Pas depuis Gila. Pas depuis Gila, des fois, pour imposer ses idées.
Ça fait partie de la vie.
Alors que ce qui est bien quand on est romancier, c'est qu'on est tout seul face à sa page. Summer, donc c'est le titre de ce roman, c'est le nom de cette jeune fille. Comment le nom est-il apparu?
J'ai beaucoup cherché. J'ai regardé tous les dictionnaires de prénoms mythologiques, bibliques. Je voulais quelque chose de spécial qui, justement... Comme cette jeune fille, elle est mythifiée par tous, tout le monde projette des choses sur elle qui sont probablement fausses. Je voulais un prénom qui soit pas familier, où on peut pas se dire « Ah, dans ma classe, j'avais une... » Et j'ai pensé à la famille Phoenix, justement, Joaquin Phoenix, et donc il y avait River, Winter,
ouais.
Je crois, et voilà, et je sais pas, ces prénoms, ils me semblaient bien collés, et comme j'aime... Elle a un côté de jeune blonde californienne, un peu, même si c'est à Genève, je trouvais que ça lui allait bien.
La famille Phoenix qui était dans une secte.
Absolument, absolument. Oui, c'est des prénoms de secte aussi, effectivement. Ça peut être aussi ça.
Alors le roman, c'est l'histoire d'un été meurtrier, puis ça tombe bien parce que le film préféré de Summer, c'est celui avec Isabelle Adjani, c'est mentionné dans le livre Souvenir.
Elle se prenait pour une star. Elle avait gagné un concours de beauté l'été d'avant à Saint-Étienne-de-Tinée. On l'avait élue Miss Camping Caravani. Depuis, elle se prenait pour une star.
Ça vous permet de raconter quoi de ce personnage? De savoir que son film préféré, c'est celui de Becker?
J'ai pas tellement réfléchi, mais il est très trouble, il est très dérangeant et en même temps... L'été meurtrier, j'aimais bien avec l'idée que le livre s'appelle Summer.
Bien entendu.
Il y avait vraiment, c'était presque aussi
de créer une sorte d'image simplement au niveau au niveau des mots. Et le film en lui-même, c'est un film qui vous intéresse, celui-ci?
J'adore ce film.
Il y a des thèmes communs entre les deux. Et oui, c'est un film qui m'a beaucoup marquée adolescente.
Est-ce que vous avez cherché à ce que vos romans puissent passer du côté du cinéma? Est-ce qu'on vous a contacté, par exemple?
Oui, c'est arrivé. Alors, pour l'instant, aucun n'a été mis en production, mais j'y pense pas forcément en l'écrivant. Mais l'aspect visuel est vraiment très, très important quand j'écris. La sensation, l'image, je pars d'une image. J'aime bien l'idée d'aborder l'émotion par une sensation. C'est une façon de l'approcher peut-être de façon moins frontale et de laisser des creux, des vides où on peut soi-même mettre des mots sur ce qui se passe et sur l'émotion qui se déroule.
Alors quand j'ai lu les papiers qui sont sortis sur le livre, ils sont nombreux, il y a des références qui reviennent. Virgin Suicide de Sofia Coppola, Twin Peaks, les livres de Laura Kaczynski, de Joyce Carol Oates. Vous vous reconnaissez dans ces références?
Ah oui,
américaines, en fait.
Complètement, oui. Ce sont des inspirations, clairement. Virgin Suicide, un film qui m'a énormément marqué par justement sa lumière et son regard sur les jeunes filles. Mais j'avais adoré également le roman de Jeffrey Eugenides, que je trouve remarquable. Laura Kaczynski, elle est... la poésie de sa langue et justement cette littérature qui joue avec les codes du campus américain, ça me plaît énormément. Ce mélange d'organique et de pop, en fait, me plaît beaucoup. Et Joyce Carol Oates aussi, sa langue, en fait, comme une musique, comme un chant, m'inspire énormément.
Thomas et Laurent de Phoenix, vous avez le temps de lire en tournée ou ailleurs?
Cet été, oui. Mais en tournée...
Ouais.
Ah, vous avez le temps?
C'est la fin de l'album, j'arrivais plus à lire, j'étais trop fatigué. Mais là, maintenant, ça y est, c'est reparti.
Là, on a repris.
Vous lisez, par exemple, les romans de la rentrée littéraire? Vous regardez un petit peu ce qui se passe?
Non, sur l'actu, on ne peut pas dire que je suis pointu. Mais en général, j'en prends, je dirais, 1/5. Mais non, c'est plutôt des classiques. Je ne sais pas, cet été, ou...
Ouais.
Je sais pas, non. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Je l'ai offert à Christian aujourd'hui, d'ailleurs.
C'est vrai.
Donc tu l'as lu déjà ou pas?
Bien sûr. Et vous, Laurent, c'est quel genre de littérature?
J'ai commencé le livre d'Emmanuel Todd.
Ah oui, d'accord, c'est autre chose.
Plutôt
du côté des essais, alors.
Ouais. En ce moment, j'ai l'impression de me faire avoir quand je rentre dans un roman.
Ah bah non, on se fait vraiment avoir.
Je sais pas pourquoi ça m'énerve. Alors que j'ai tort, bien sûr.
Monica Sabolo, vous vous êtes construite avec quelle littérature, en fait?
Je crois que mon premier choc littéraire, c'était Stephen King. Quand j'avais, je crois, 12 ans, et c'était Cimetière. C'est une histoire d'une famille qui est sur le bord d'une route avec des camions qui passent, très américains également, enfin vraiment les archétypes d'une certaine Amérique. Et il y a ce chat, le chat de la famille adorée qui se fait écraser par le camion. Et ils vont enterrer le chat dans un cimetière très étrange et trois ou quelques jours après, le chat revient et il n'est plus le même. Et alors évidemment, quelqu'un ensuite mourra et on ira l'enterrer dans le cimetière, il reviendra, il ne sera plus le même.
Cette référence à Stephen King, c'est quelque chose qui fonctionne particulièrement pour votre roman. Parce que
ah oui,
ce que vous travaillez, c'est, on pourrait dire, puisqu'il y a disparition d'une jeune fille, alors on sait, est-ce qu'elle est noyée, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est simplement partie? Il faudra lire le roman pour le savoir. Mais il y a une dimension de thriller, mais c'est jamais frontal. C'est-à-dire, c'est l'écriture qui prend en charge tout le suspense. Un peu comme chez Laura Kaczynski, qui a signé à Suspicious River ou alors un oiseau blanc dans le blizzard, c'est l'écriture qui crée un suspense. C'est pas véritablement le suspense en lui-même. C'est quelque chose que vous travaillez dans cette filiation-là, Monica Sabolo. C'est la langue, en fait, qui crée le suspense.
Voilà, c'est ça. Mais j'avais la sensation que sur Grand Montana, il manquait quelque chose. Avec le temps, je me suis dit, effectivement, le travail de la langue, de la poésie, de toucher au sauvage, aux images, etc., pouvait prendre parfois le dessus sur une vraie intrigue. Et je voulais essayer d'avoir une histoire qu'on pouvait lire uniquement pour savoir ce qui s'était déroulé. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais j'ai essayé de jouer avec les codes du thriller, même si ça n'en est pas réellement.
Vous écrivez où ?
J'écris beaucoup dans mon lit. Énormément. En fait, je me leurre pour le moment de l'écriture. Je fais semblant que je ne vais pas écrire. Donc, je me couche, je me fais un café, je fume, voire le soir, je bois une bière. Enfin, je me mets vraiment dans un truc.
Du style, ah non, je vais pas écrire.
Non, pas du tout, je sens pas, etc. Et là, paf, je me chope par surprise et je me mets à écrire.
Vous avez une discipline d'écriture ?
Ah oui, je suis obsessionnelle sur les signes, le nombre de caractères.
Ah ben ça, c'est la formation de journaliste. Ouais.
Et donc, d'ailleurs, quand quelqu'un me dit qu'il a écrit un livre ou qu'il est en train d'écrire, je lui dis, t'as combien de signes ? Et donc, je me donne un nombre de signes par semaine. Oui.
Une dernière question, puisqu'on parlait d'images. Non, mais Valérie.
Non, je dis, est-ce que vous reconnaissez là-dedans ? C'est la page blanche, c'est la bande blanche.
Nous, notre stratégie, c'est beaucoup de créer sans juger. C'est-à-dire que cet album, on a fait, je ne sais plus combien, mais c'est en jour, en 2, sur notre iTunes, il y a 4,2 jours de musique. Donc c'est énorme, ah oui. Mais c'est absolument... C'est quantitatif et pas qualitatif. C'est ça qui fait qu'on n'a pas l'angoisse de la page blanche et c'est qu'on sait qu'il y aura quelque chose de valable et d'intéressant, mais c'est reconnaître ça. Donc en général, on laisse reposer. On réécoute ce qu'on fait, en particulier Christian, qui a cette tâche de réécouter quelques jours, parfois quelques semaines après. Et là, ce qui est difficile, c'est de voir ce qui va garder notre intérêt pendant un certain temps et pendant des années et qui fera que ce sera sur le disque. Voilà.
Dernière question, Monica Sabolo, puisque tout à l'heure on parlait de la photothèque, on va dire, de Phoenix. Vous, quelle est la dernière photo que vous avez postée sur Instagram ? Parce que je sais qu'à une époque, vous étiez particulièrement, on va dire, prolixe à ce niveau-là. Vous vous souvenez ?
Oui, alors la dernière, c'est une photo du lac Léman. J'étais à Morges ce week-end et en fait, je pose beaucoup de photos d'eau. Et donc, comme le livre se déroule autour du lac Léman, voilà.
Summer, le nouveau roman de Monica Sabolo, apparu aux éditions Jean-Claude Lattès. Il faut rester avec nous, bien sûr, parce qu'on va retrouver
Mais
Phoenix
oui,
dans
parce
quelques
que
instants.
Thomas et Laurent vont retrouver la table et vous allez rester avec nous parce que, en plus, vous êtes fans comme nous. Alors, ils vont commencer par un titre extrait de Ti Amo qui est sorti chez Warner Atlantic, le 6e album. Alors, Laurent, reprenne. Regarde cette guitare rouge.
Oui, c'est une guitare de bébé.
Ouais, c'est adorable.
Rose.
Donc,
et en face, une guitare vert pomme aussi.
C'est,
hein, bah, franchement.
C'est pas vert pomme, c'est plus aqua, non ? On dirait, c'est un peu nacre. Nacré. Super joli. Vous êtes prêts
pour les faire... garçons.
Les garçons pour faire J-Boy. C'est Phoenix dans le nouveau rendez-vous sur France Inter.
First.
Phoenix dans le nouveau rendez-vous sur France Inter, aussi sur Facebook Live, on oublie
de le dire.
Alors là, ils sont autour d'une table avec une nappe en néopard, comme j'ai dit tout à l'heure.
Un téléphone rouge, une guitare verte.
Avec la banane aussi. Laurent, il sourit pendant tout le temps. Ils ont l'air joyeux. Après quand même presque 30 ans de vie commune, peut-être pas pour tous, mais quand même. On va écouter tout de suite un autre titre. C'est ce qu'on appelle une gold, un récurrent. C'est 1901, extrait de l'album Wolfgang Amadeus Phoenix, sorti en 2009. Petit cadeau pour nous, pour les auditeurs de France Inter, Phoenix, dans le nouveau rendez-vous.
The last call. You're going in.
Phoenix, on a un nouveau rendez-vous sur France Inter. On est ravis en attendant leur passage en France le 29 septembre à l'Arena Accor Hotel qu'on appelle toujours
Bercy.
Il essaie de trébucher. Venez à table, revenez.
Laurent, Thomas et les
toujours
autres,
les
si
mêmes.
Vous voulez. On a quatre micros, hein, comme vous voulez.
Alors, Thomas, quand même, vous rappez sur J-Boy un petit peu. On peut dire ça à rapper ou pas?
Je rappe en... Il y a un style français. Les Français copient les Américains.
Ouais.
Un petit peu à la façon de Chagrin d'amour, quelque
part. Oh,
mais
c'est gentil.
Qui s'appelle le... J'ai oublié le nom.
Le Boogie.
Donc
c'est
French Boogie.
Ah oui, French Boogie. Ils sont sortis chez Born Bad, d'ailleurs. Voilà. Un super
compilation
album.
Compilation de French Boogie.
Vous êtes dedans?
Non. Ah, mais trop de succès, vous comprenez.
Mais c'est du French Boogie, ouais.
Voilà. Rap un peu à la française,
avec un le peu charme minable, des défauts.
Mais ouais, mais un charme.
Alors, le deuxième titre, c'était vraiment le gros titre qui vous a révélé vraiment aux Américains, et je pense peut-être un tout petit peu aux Français. Je voulais savoir quel est le regard que vous avez dans l'industrie musicale aux États-Unis par rapport en France. Est-ce que il y a des grandes difficultés, des différences, la liberté ou pas, vous avez la main libre plus là-bas qu'ici, comment ça se passe?
Non, on se sent assez libre. Non, il y a des pays où c'est plus compliqué. On vient de jouer en Malaisie, par exemple, et avant d'aller sur scène, on me donne une feuille avec ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, où on se sent pressé. Enfin,
qu'est-ce qu'il faut pas dire, par exemple, en Malaisie?
Il faut pas parler de politique, il faut pas dire du mal du pays, il faut pas jurer.
Vous aviez l'intention de le faire?
Non, mais au moment où on joue, on a un énorme miroir avec un écran qui reflète ce qui se passe, et donc je me souviens de la feuille qui disait faut pas parler de politique ni de faire de choses un peu érotiques
ou
sexuelles. Ah ouais. et on n'a pas pensé, mais on a des images de la Cicciolina.
Ouf.
Donc on fait
oui, bien sûr, parce que voilà. L'inspiration italienne,
donc c'était un peu une
et comment ça a été vécu?
Ça a été bien vécu.
Les gens aiment bien la
Cicciolina. Bah oui,
j'allais dire, ça les ravir.
Ça les a changés.
Cicciolina en 79.
C'est-à-dire quelle époque? Avant ou après Jeff Koons?
Avant, elle était avant. Toute fraîche, toute.
Elle était assez mignonne d'ailleurs. Ouais.
Elle avait son petit.
Aux élections.
Oui.
Ouais.
Elle avait son petit doudou là.
Cicciolina.
Ouais. Cicciolina.
Tout ça là.
Vous avez essayé de la rencontrer?
Non.
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 Non, manifestement pas.
Et vous avez rêvé quand même un petit peu, alors, dans vos étés en Italie. Qui sait, Laurent?
De quoi? De
la Cicciolina.
Je sais pas si, franchement, c'est maintenant avec la... que j'aime la Cicciolina pour ce qu'elle n'était sans doute pas, d'ailleurs.
Alors, on va revenir aux États-Unis, parce que les gens aux États-Unis ne savent pas forcément que vous êtes français, mais est-ce qu'ils perçoivent quand même quelque chose d'étranger dans votre musique?
Oui.
Thomas?
Oui, ils perçoivent quelque chose de français, même, je pense.
À quel niveau?
L'accent déjà.
D'accord.
Il pense aussi la façon dont les mots sont agencés quand même. C'est très français. On cherche pas à se corriger. On cherche pas à faire quelque chose d'authentique. Donc à un moment, on cherche aussi à créer notre propre langage. Et ça, je pense qu'il le enfin, pas tout le monde non plus, hein, mais
c'est sûr. Non, mais c'est vrai qu'il faut dire que Thomas n'a pas d'accent, n'a jamais eu. Et même en live, parce que c'est souvent en live que les gens, ils ont moins les corrections, etc. Et c'est fou, mais c'est exactement ce que vous dites.
Mais quand
par
on
rapport
chante.
La construction des phrases et tout, c'est ça qui.
Quand on chante, l'accent disparaît. Je pense à tous les artistes québécois qui chantent en français.
Non, mais ça c'est vrai pour les Français. Ça c'est vrai pour les Québécois.
Ah, non, moi, y en a
mais pas pour les Français qui essaient la plupart des groupes qui essaient de chanter en anglais.
On voit bien qu'ils sont français.
Ouais, là on voit. Mais
quand Vali chante en français, par exemple, dans Chagrin d'amour, on voit bien qu'elle est américaine.
Moi, j'ai une cause perdue.
Là, je m'incline.
Mais aussi, la musique électronique que vous représentez pas mal aussi. En France, on a un vrai patrimoine. Entre, je ne sais pas, Pierre Schaeffer, Bernard Fèvre, Pierre Henry. Et j'ai l'impression que les Américains, ça commence dans les années 80, fin des années 80, avec la house ou la techno. Vous êtes un truc d'avance sur les Américains. Ou est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
On est, je sais pas Laurent. si on est en avance, mais en tout cas, nous, on essaie de puiser dans ce qui est européen et dans cette espèce de mine à ciel ouvert, gavée de pépites, qu'on peut après transformer en des chansons. Il y a plein de sujets qui sont jamais abordés dans la pop musique, qui est quand même dominée par les anglo-saxons. Et nous, on essaie juste d'apporter ce petit angle à la française.
Oui.
J'allais dire à la française.
Mais...
On va revenir dans le passé. En 92, Laurent, vous aviez un groupe avec les deux Daft Punk. Le groupe s'appelait Darling. On écoute un extrait.
Send us all love, send us all love, send us all love, send us all love. Send us all love, send us all love, send us all love.
Vous nous dites, il a fallu le chercher celui-là, c'est notre réalisateur Stéphane Le Guenec qui nous l'a proposé tout à l'heure dans le bureau. Qu'est-ce que vous écoutiez à cette époque, Laurent ?
On écoutait beaucoup de choses très différentes. Et à l'époque, on écoutait beaucoup les Beach Boys, qui était un groupe à l'époque quand même considéré comme ringard.
Ah bah depuis, on a refait l'histoire.
Depuis, hein. On a remis les Beach Boys sur le podium. Mais à l'époque, on était peu à écouter. Et c'est ça qui nous a réunis peut-être. Le Darling, c'est le nom d'un morceau des Beach Boys.
Surtout Pet Sounds, on écoutait très récemment pour beaucoup, même comme Sgt Pepper, il faut avoir 50 ans pour certaines personnes pour qu'ils découvrent ces merveilleux albums.
Nika Sabolo, on vous a proposé d'écrire des chansons ou c'est quelque chose que...
J'adorerais. Alors personne n'y a jamais pensé.
Et vous-même, vous y avez pensé? Vous-même,
oui, vous... j'aimerais ouais. beaucoup.
Et ouais, vous en avez ouais. écrit même,
Non, pas non. encore. Un petit peu, mais, enfin un début, mais c'est vrai que j'aimerais bien, ouais.
Sur quel genre de répertoire? Plutôt chansons françaises? Plutôt
Alors, j'aime bien l'idée d'écrire en anglais sans vouloir avoir l'air totalement authentique. Ça me plairait bien aussi, ça.
Justement, est-ce que vous écoutez la nouvelle scène de pop française, que ça fait 5 ou 6 ans, que, surtout depuis 5 ans, vraiment, que ça perce en France? C'est presque comme la nouvelle variété. On chante en français, beaucoup d'électronique, beaucoup de synthé, ça vous
ouais,
interpelle?
On l'écoute parce qu'on a
Thomas.
On a enregistré notre album à la Gaîté Lyrique, qui est un musée du digital, mais qui est aussi un espace où il y a une salle de concert et tous ces groupes-là jouaient 3-4 fois par semaine.
Style les gens comme Paradis, les gens comme
voilà,
ça.
Voilà exactement.
C'est ça, Paradis. Ouais.
Et donc à 4h de l'après-midi, quand on s'ennuyait un peu, on allait. On avait les clés, nous, on avait des badges, donc on passait sur la mezzanine et les groupes ne nous voyaient pas, on les regardait faire leur balance en sachant que nous, on allait partir en tournée bientôt, nostalgique de la tournée. Et puis après, on allait voir les concerts aussi, donc ouais, on a suivi.
Mais j'ai l'impression que ça pourrait marcher aux États-Unis des fois, parce que les Français, ils ont une façon de faire de la pop qui est très différente, comme on disait tout à l'heure. Il y a des sonorités, même la langue, des fois, quand on chante sur ce genre de rythme. Bon, peut-être que je suis rêveuse en pensant que chanter en français
crois,
que
moi, j'ai
pourrait marcher.
Je suis peut-être pessimiste, mais j'ai l'impression qu'il y a au moins, avec toute la période Trump, qu'ils se sont refermés sur eux-mêmes et qu'il y a au moins 4 années de hip-hop
Vous l'avez ressenti,
assez
ça,
violent.
Depuis que vous jouez là-bas, vous avez ressenti quelque chose avec
Et Thomas, vous vivez
ces
là-bas.
Ces derniers mois,
ouais. Nous, ça fait beaucoup d'années qu'on fait ce métier.
Bah ouais.
Et on est des vieux. Donc, on a vécu les Freedom Fries, Bush, la guerre du Golfe. On a vécu un peu toutes les. Et on sent, je ne sais pas si c'est psychologique, mais rien qu'arriver à la douane, on sent le parfum, soit une sorte de détente joviale, soit une pression. Et là, c'est revenu un peu la seule ambiance à la bouche. Je trouve. Et puis après, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on, quand on arrive dans une ville, on est des petits Français et puis on représente un petit bouffée d'air frais. Et les gens qui viennent nous voir, c'est pas vraiment des super réactionnaires.
Non.
Donc on est en contact avec l'Amérique sympathique qui aime les gens comme nous, donc ils sont un peu fous, quoi. Des Français, hein, qui ont
acheté la console de Michael Jackson. Pour quelle raison vous avez acheté la console de Michael Jackson?
Comment résister à la tentation?
Mais
non, Je pense que vous, si vous auriez
moi j'achèterais ses vêtements, mais pas sa console, mais on n'a pas la même histoire.
On aime mettre la guitare jouée dans la meilleure console, voir ce que c'est ça fait. L'instrument le plus pourri dans le meilleur. Mais elle est aussi unique. Cette console, elle était déjà, elle était dure à trouver. Elle appartenait à quelqu'un qui avait un label de rock chrétien. Donc personne pensait que c'était la vraie. Et c'est Laurent qui l'a suivi sur eBay, qui a suivi le...
J'ai ni coup de génie psychologique, je me suis dit, le type a l'air tellement d'un mythomane que finalement ça ne peut être que vrai. Et j'avais raison.
C'est vrai.
Et vous l'apportez avec vous, par exemple, la Gaieté Lyrique, vous l'avez apportée comme...
Ouais.
Et elle est comment?
Alors on l'a elle est déjà à la taille de la table,
1m50.
D'accord.
Mais nous on a extrait quelques c'est des modules, donc on a une version un peu minimaliste.
Et un vrai son différent.
Ah ouais, on reconnaît les disques qui ont été faits dessus.
C'est vrai.
Ouais.
Thriller par exemple.
Thriller, on reconnaît je sais pas les disques de Billy Idol, White Wedding par exemple.
Trop bien.
Non, elle est. Les personnes qui l'ont authentifiée.
Parce que des experts sont venus.
Qui sont allés voir la personne de Rock Chrétien. Et les experts qui l'ont authentifiée m'ont dit on aurait pu l'authentifier à l'oreille. J'aurais pu signer le papier juste en
l'écoutant. C'est comme du bon vin, les gens savent quand c'est.
Les vrais connaisseurs reconnaissent.
C'est fou, vous avez payé cher. Pas besoin de le me dire, je suis une américaine, je pose des questions comme ça.
C'est ça le génie inversé de ce type, c'est qu'il a réussi à faire croire à tout le monde que c'était un faux.
Ouais, bien sûr.
Donc il personne l'a vendu, quand Michael Jackson est mort, il l'a mis en vente à 2 millions de dollars, je crois. Nous, on l'a payé, je crois, 18 000 dollars. C'est une somme, c'est pas beaucoup pour une console.
Non, mais franchement, surtout, comme on parle technique, je voulais juste dire que la prise de son ce soir, c'était de Mathias Alléon, Ludovic Asselot et Gilles Gaillot. Et à la vidéo, c'était Sandrine Laurent. Je voulais juste rappeler que cet album Tiamo est disponible sur Warner Atlantic en digital, CD, vinyle et même en cassette. Vous êtes vraiment tarés. Et je rappelle que le 29 septembre, c'est un dimanche, je peux venir, à l'Arena Accor Hotel, qu'on appelle toujours Bercy.
Vous êtes... Je crois que c'est pas un dimanche.
Ah non.
On aura insisté pour que ce soit un week-end.
Attends, moi je peux venir parce que de toute façon c'est vendredi, samedi ou un dimanche.
C'est vendredi. C'est Saint-Clair, c'est sacré.
Ok. Ouais.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
En tout cas, c'est le 29 septembre.
Vous êtes vraiment très vieux.
Phoenix en concert.
On a donc le même âge pour penser à ça.
Je vais y regarder tout de suite.
Juste une toute dernière question. Quand vous travaillez avec Sofia Coppola pour un film, vous travaillez en amont la musique, je pense bien sûr au Proie par exemple qui est actuellement en salle. Vous travaillez en amont du film ou vous travaillez en visionnant des séquences pour la musique?
Les deux, elle travaille, elle entend des bouts de musique qu'on fait et qui peuvent démarrer certaines scènes. Mais en général, dans le cas des Proies, elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait presque, elle connaissait même presque les synthétiseurs qu'elle voulait qu'on utilise. Donc,
elle est à bonne école.
Donc on a choisi, on avait un cadre très strict, ce qui est très facile, ce qui rend la tâche très facile et ce qui fait qu'on travaille beaucoup plus vite. On aime bien avoir un cadre, voilà.
Mais merci à vous, merci
Tour
Phoenix, merci Monica Zabolo.
Merci
d'être venue. Le NRV première partie, c'est fini, on va se retrouver dans 15 minutes après le journal avec ça.
Quel était le vrai nom de Molière?
Jean-Baptiste Bouclin, c'est bon, lâche-moi, putain.
Ça me fait toujours rire. Très énervé, Isabelle Adjani en prof. Ça promet pour cette rentrée des classes qu'on nous annonce en fanfare. On va en parler. Le rendez-vous est pris. C'est Poquelin, le nom de Molière. À tout de suite.